Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu ne m'abandonneras pas, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie, et il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel est à ta droite. Voilà, c'est avec ce beau psaume 16 que je vous accueille ce matin. À la fois dans cette église, votre église, et à la fois chez vous, bien installé, derrière votre écran, dans votre canapé peut-être. Soyez toutes et tous la bienvenue. Bienvenue aussi tout particulier pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qu'elles soient aussi ici présentes ou bien devant leur écran. Bienvenue aussi tout particulier aux personnes qui ne peuvent se déplacer, une pensée toute particulière aussi à eux. Et le Christ nous accueille, les uns et les autres, dans l'amour de sa présence. Nous sommes environ une soixantaine ici dans cette salle, et cela fait du bien de revoir des visages, les visages des frères et sœurs dans la foi. Même si un retour s'amorce dans nos locaux, je suis très reconnaissant d'avoir pu suivre ma communauté au travers des moyens techniques durant cette période si bizarre qui nous a éloignés les uns les autres. Encore un grand merci à tous nos techniciens, dont Eric Henry, aujourd'hui aussi, pour le magnifique travail qu'ils ont effectué durant cette période de pandémie. Et je vous propose qu'on remette ce culte en invoquant le nom de notre Père. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble entre frères et sœurs en famille. Alors c'est vrai, Seigneur, en famille mérinoise, mais Seigneur, on l'imagine aussi dans cette famille mondiale, du monde entier, Seigneur, où c'est vrai que par les moyens techniques, il n'y a plus de barrières aussi. Alors Seigneur Jésus, je te demande que tu nous rejoignes ici dans cette salle, mais aussi auprès de toutes les personnes qui nous écoutent, et Seigneur, auprès de toutes les personnes aussi qui aujourd'hui se rassemblent pour te célébrer, pour célébrer ton nom et te glorifier. Alors Seigneur Jésus, nous voulons demander ta présence soit parmi nous et Seigneur que nous puissions vivre, nous puissions t'entendre, nous puissions être encouragés et Seigneur que nous puissions aussi être tes témoins dans le monde entier. Alors Seigneur Jésus, bénis ce temps que nous avons autour de ce culte et aussi avec la prédication et les chants que nous allons entendre. Alors Seigneur, bénis-nous tout particulièrement. Amen. Malheureusement, nous ne pouvons pas chanter avec cette recommandation, mais je vais laisser Xavier interpréter pour nous le chant « Je vis ta liberté ».
Oh, affuie mon péché, quel est le poids qui découvre, le sol et le vent au ciel couchant. Plus d'une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Car je pleure et je ris, je suis ivre de toi. Car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. mots sont enfuis mes fautes, ou affuient mon péché. Quel est le poids qui les couvre? Le soleil, le vent au ciel couchant, plus d'une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Car je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté.
Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver, on s'est déjà retrouvés pour quelques-uns d'entre nous dimanche dernier. Heureux de nous savoir en lien grâce aux moyens de la technique et en particulier à vous qui nous regardez depuis votre salon, j'espère pas votre chambre à coucher ou votre cuisine, mais en tous les cas que ce culte vous soit bienfaisant aussi. Et un très grand merci à Eric Henry pour sa compétence technique et sa disponibilité renouvelée. Galates 5, les versets 13 et 14. Galates 5, les versets 13 et 14. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voici un texte qui me saisit, qui me retourne à chaque fois que je le lis. Nous pourrions y passer des heures et des heures en commentaires, que nous n'aurions pas fait le tour que la pratique exige tout le long d'une vie. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. J'ai pensé évoquer ce court texte ce matin, essentiellement en écho à ce que nous avons vécu ces dernières semaines. À écouter les uns les autres, à vous lire parfois, je crois que nous avons besoin de processer encore. Nous avons vécu quelque chose d'extrêmement fort et nous sommes, pour un pied et demi, encore dedans. Nous avons vécu individuellement, collectivement, familialement, intimement, des choses fortes. Nous l'avons dit la semaine passée, nous avons perdu des êtres chers. Et je salue Déborah ce matin, qui est avec nous. Nous avons été bousculés, n'est-ce pas? Et il ne faut pas faire semblant que ça n'a pas été le cas. Nous avons besoin de processer. Il y a des mots à dire, il y a des choses à vivre, il y a des larmes à verser, des joies à chanter. Il y a d'abord eu ce temps de confinement, avec la sidération qui l'a accompagné, et surtout des mesures si particulières que pour quelques semaines, ces mesures particulières nous ont conduits à renoncer à des éléments essentiels de notre liberté individuelle. Des choses que nous aimions, dont nous avions pris l'habitude et auxquelles nous avons dû renoncer. Nous avons abandonné, à certains égards, notre liberté. Des exemples ? À quoi avez-vous renoncé entre le 15 mars et grosso modo le 10 juin ? Les grands-parents ?
Les petits-enfants.
Vous n'avez pas pu pendant tout un temps non seulement les prendre dans vos bras, mais même les voir. On vous a demandé d'y renoncer. Et vous avez accepté d'y renoncer. D'autres exemples ? Nous avons renoncé à chanter, pas seulement à l'église, hein, les chœurs locaux, par exemple. À quoi d'autre avons-nous renoncé ?
Passer la frontière.
Tu vas faire tes courses en France, Paul Robert ? Faut qu'on parle, hein. On a d'excellents vignerons. Hein. Bon. On était sur une île. Nous avons renoncé à des éléments essentiels de notre liberté, comme par exemple passer la frontière. Nous avons dû renoncer à venir au culte. Et je peux vous dire que celles et ceux qui ont présidé seuls un culte, ou presque seuls, l'ont vécu parfois douloureusement. Nous avons renoncé à venir au culte. Puis il y a eu ce temps de déconfinement, qui est peut-être plus exigeant encore, parce que le déconfinement, c'est plus flou que le confinement. On est responsabilisé autrement. On découvre avec le déconfinement d'autres contraintes, d'autres limites. On ne se sent pas encore tout à fait libre. Quelques exemples pour montrer qu'on ne se sent pas encore tout à fait libre.
Masque, pas masque.
La bise.
Ah.
Ouais. Ouais.
La queue à la Migros.
Encore, ouais. Des activités associatives qui reprennent tout doucement, y compris la vie d'église, hein, qui reprend tout doucement. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Et par ce mot de liberté, l'apôtre Paul caractérise la vocation chrétienne. En tant que chrétien, nous dit-il, en tant que chrétienne, tu as été appelé, destiné à la liberté. Ce qui te caractérise, c'est la liberté. Autrement dit, chrétien, chrétienne, tu es fait pour être et vivre libre. Les chaînes, les schémas, les esclavages, les mises à l'écart, ce n'est pas pour toi. Toi, comme chrétien, comme chrétienne, ta vocation, le cœur du cœur de ta foi, c'est de vivre libre. Vous avez été appelés à la liberté. La liberté. Ce mot, Paul ne l'a pas inventé en écrivant ici aux chrétiens de Galatie. Ce mot, pour Paul, me semble tenir dans sa réflexion à la jonction de deux sources. La première source est sans aucun doute son héritage spirituel juif.
Paul est juif. Saul de Tarse est juif. Dans la Torah, Dieu est conçu comme le libérateur d'Israël, avec cette affirmation centrale de la foi juive qui introduit les 10 paroles pour rester libre. Exode 20, verset 2. « Je t'ai libéré de la maison de servitude. Mon peuple, tu es libre. Et voici maintenant les paroles qui te permettront de rester libre. Mais tu es libre. » En l'espèce, il s'agit là de ce qu'on appelle une liberté collective. La liberté pour tout un peuple d'être ce qu'il doit être dans son ensemble pour persister dans la mission particulière qui lui est assignée pour être en bénédiction au monde entier. La première source de Paul quand il parle de liberté, c'est indéniablement son héritage spirituel juif. Et puis la seconde source de Paul tient, il me semble, à la culture philosophique de l'apôtre, à l'ère du temps, de son temps à lui. Dans le monde grec où Paul est né, dans le monde grec où Paul travaille, grandit, fleurit un courant de pensée philosophique très répandu qui est bien écouté dans les milieux populaires. Un peu comme aujourd'hui sont promus à grand renfort de publicité, de relais médiatiques, des sages, des grands influenceurs qui promettent une amélioration de la vie, une réalisation du soi le plus intime, la découverte du bonheur. Ce courant de pensée du temps de Paul, c'était celui des stoïciens. Les stoïciens, ils parlaient beaucoup de liberté. Il prônait une liberté personnelle autosuffisante, c'est-à-dire « je suis libre quand je ne dépends de personne ». Il prônait aussi une liberté personnelle autonome, c'est-à-dire « je suis libre quand je peux agir à ma guise, comme moi je l'entends. Ce que je ressens, ce que je vis, c'est ma liberté et il ne faut pas venir me chercher sur ce terrain-là ». C'est encore une définition de la liberté qui a pignon sur rue 2000 ans après Paul. Je suis libre quand je suis autosuffisant et je suis libre quand je suis autonome. Ça a encore cours aujourd'hui. Et Paul leur emprunte donc cette idée d'une liberté personnelle. Mais il va donner à cette idée de la liberté personnelle, et c'est une nouveauté dans l'Évangile, un tout autre contenu que je vous propose de méditer quelques instants. Bien sûr que tout le monde a son avis sur la liberté, parce que la liberté, c'est un sujet qui concerne tout le monde, alors tout le monde a un avis sur la liberté. Mais qu'est-ce que l'Évangile apporte de plus ou de différent à la liberté humaine ? Je reprends notre épître. Le mot de liberté, il est prononcé ici dans un cadre ecclésial. Il est écrit, il est dit, dans le cadre d'une église locale. Paul s'adresse à l'église ou aux églises locales de Galatie. Il a contribué à les fonder, il a formé des gens qu'il considère comme ses frères et sœurs. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, à ce stade, au moment où il leur écrit, ces frères et sœurs-là sont tentés de revenir en arrière. Et l'apôtre Paul essaye de les en dissuader. Et ça pique. Il est donc question de liberté à l'intérieur d'un cercle spirituel précis, celui où la foi des premiers chrétiens, des premières chrétiennes, est en débat. Très concrètement, il s'agit ici de liberté par rapport aux 613 commandements de la loi de Moïse. 613 commandements qui règlent tous les aspects de la vie quotidienne. L'OFSP en a édité beaucoup moins. 613 commandements qui régissent tous les aspects de la vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger ? Avec qui je peux vivre ? Avec qui je peux me marier ? Avec qui je peux avoir des enfants ? Et puis, quelle relation entre les hommes et les femmes ? Quelle relation avec ceux qui sont en dehors de mon cercle religieux ou même en dehors de tout cercle religieux ? Comment prier ? Quel rite pour m'approcher de Dieu ? Quel code pour le culte ? Comment chanter ? Comment dois-je me comporter dans telle ou telle situation ? Et voilà que la loi de Moïse vient répondre à tout ça et à bien d'autres choses encore. La liberté que lui, Paul, à un moment donné de sa vie, décide de prendre et pour laquelle il plaide vigoureusement, consiste à tourner le dos à cette savante et contraignante construction religieuse. Il tourne le dos à ce qui fait sa religion. Vous avez été appelés à la liberté. Vous n'avez plus à vous soucier de ce qu'une loi religieuse décrète entre ce qui est permis et défendu, entre ce qui est licite et illicite, entre ce qui est pur et impur. Vous avez été appelés à la liberté. La relation avec Dieu ne transite pas par l'obéissance à un code juridique ou religieux. La relation avec Dieu passe par la foi seule en Jésus-Christ. La foi seule suffit. Et tout ce qu'on y ajoute ôte à la beauté et à la grandeur de l'Évangile. Tout ce qu'on y ajoute mutile l'évangile, dit Paul, verset précédent. Et cette foi seule chasse le naturel et nous conduit et nous inspire à aimer et à servir nos prochains, verset 14. Toute la loi, l'ensemble des 613 commandements, tout ce qui est codifié au niveau religieux, trouve son aboutissement dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, comme nous nous aimons les uns les autres, nous résumons la loi. Il n'y a rien d'autre à chercher, rien d'autre à ajouter, tout le reste n'est que garniture. Et je trouve que cela résonne fort aujourd'hui encore. Les églises chrétiennes, nos églises évangéliques ont cette tendance à basculer vers les codes, vers les rites, vers les lois qui régissent la foi. Colossiens 2, verset 21, parle des règles de ce genre que l'on veut parfois nous imposer ou s'imposer. Colossiens 2, 21, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Régulièrement, nous assistons au surgissement de codes religieux qui s'imposent presque comme la preuve d'un véritable christianisme. Si tu es chrétien, il faut ceci, cela. Si tu es chrétien, il faut que tu fasses ça, que tu penses ça, que tu agisses comme ça, que tu votes là ou que tu ne votes pas ici. Et le résultat le plus évident est l'augmentation des replis communautaires, des revendications séparatistes, de la concurrence des fidélités qui font le lit des divisions et qui tiennent à distance celles et ceux qui ont une vraie attente de Dieu. Mais cette attente de Dieu ne peut pas être satisfaite par des codes religieux. Dieu, nous le voyons à l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est ici qu'il nous faut donc accueillir la radicale originalité de la parole évangélique. Ce qui compte, ce n'est pas l'appartenance à tel ou tel code. Ce qui compte, c'est que le Christ mort et ressuscité pour nous a ouvert une relation possible avec Dieu son Père. Pour un disciple du Christ, pas question de soumission à une institution ou à un code juridique religieux. Luther, le réformateur, disait ceci: le chrétien est un libre seigneur de toute chose et il n'est soumis à personne. Maintenant, d'un autre côté, il faut reconnaître que l'absence de liberté, ça a quelque chose de rassurant. Plus de questions à se poser. L'obéissance aveugle, c'est bien pratique. C'est reposant, c'est rassurant. Juste obéir. Parce qu'avec la liberté vient automatiquement la responsabilité personnelle. Et avec la liberté vient l'angoisse d'être libre. Paul a superbement décrit cette lutte intérieure constante, cette angoisse. Romains 7, versets 15 et suivants. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Une angoisse intérieure, une tension intérieure. L'incertitude sur la justesse de mes choix, la possibilité de se tromper ou encore les scrupules sont des inconvénients de la liberté. Nous autres évangéliques, nous ne le savons que trop. Nous qui oscillons plus que de raison entre obsession de la responsabilité et culpabilité envahissante. L'angoisse, c'est une marque de la liberté. Ce n'est pas un péché. La tension intérieure, c'est une marque de la liberté. Quelqu'un de vraiment libre vit avec ça. Et je comprends que tout le monde ne le supporte pas. Un non-sens, il est plus facile de s'en remettre à une instance extérieure qui vient décider à votre place. Alors on espère que l'angoisse disparaîtra. Et telle est justement l'attitude des Galates. Ils veulent revenir à l'application stricte de la loi de Moïse, parce qu'à leurs yeux, c'est beaucoup plus rassurant pour se sentir en ordre avec Dieu. On peut checker la liste. Oui, mais, et c'est là la vraie question, comment est-ce que Dieu nous aime? Comment Dieu nous aime-t-il? C'est ça la vraie question. Et c'est un détail que les braves Galates ont oublié. La vraie question, c'est comment Dieu nous aime. Dieu nous aime-t-il en fonction de notre obéissance aux édifices que les religions ont construits entre lui et nous? Nous aime-t-il en fonction de notre juste et exacte pratique vertueuse? Ou nous aime-t-il malgré, en dépit, par-dessus nos hétérodoxies, nos diversités, par-dessus nos désobéissances inévitables, par-dessus nos failles, par-dessus nos résultats souvent tellement approximatifs, par-dessus nos inconstances? Comment Dieu nous aime-t-il? Voilà la grande question. Je sais que notre monde est basé sur le culte du succès. Notre monde, il est basé sur le culte de la prime accordée aux forts, aux gagnants. Et la malédiction de notre monde repose sur les fragiles, sur les perdants, sur les mauvais élèves, sur les gens en marge. Mais Dieu ne raisonne pas à la manière du monde. Sa parole n'enseigne pas une sagesse à la manière du monde. Vous avez été appelés à la liberté parce que vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Vous avez été appelés à la liberté parce que votre péché est remis une fois pour toutes. Nous n'y revenons pas. Et vous avez été appelés à la liberté pour être aimé et pour aimer en retour. À ces conditions, être aimé et aimé en retour, vous êtes à même de supporter le fardeau de la liberté. Vous pouvez la vivre tranquillement, la liberté. Vous pouvez la vivre sereinement, la liberté. Vous pouvez même la vivre avec un certain humour, la liberté. Il reste un reproche majeur qu'on ne manquera pas de nous adresser quand on présente ce discours-là. Votre liberté évangélique, nous dira-t-on, est une solution de facilité. Elle remplace la volonté de Dieu par votre conscience personnelle. Vous, chrétiens évangéliques, vous versez dans le subjectivisme. Seulement reprocher cela, c'est omettre qu'il y a une dimension mystique dans la liberté évangélique. C'est oublier, selon la très belle expression de Jean Calvin, que Dieu besogne au cœur des hommes. Quand les maîtres extérieurs ne sont plus, vient le temps du maître intérieur. Place au Seigneur, à l'Esprit qui vivifie. Notre liberté chrétienne n'est pas subjective, et encore moins vide. Notre liberté chrétienne est habitée par l'Esprit du Christ vivant. Et c'est lui qui nous guide. L'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu qui vient au secours de nos faiblesses. C'est lui le maître intérieur qui vient habiter en notre propre esprit. Ce maître intérieur, il va convenir bien sûr de l'entretenir par la prière, par l'étude, par l'action. Et surtout, surtout, il se voit en l'amour que nous avons les uns pour les autres. Raphaël Picon était un prof de théologie décédé il y a 2 ans maintenant, et il écrit ceci qui me touche beaucoup. Dieu est ce oui qui nous met debout et qui croit en nous. Dieu est ce oui qui nous met debout et qui croit en nous. C'est d'abord l'œuvre du Christ qui pardonne, qui fait grâce, qui relève, qui restaure. Le Christ, notre Sauveur. La liberté chrétienne est pleine d'une présence qui vient tenir l'homme, la femme, debout. Le prophète écrivait « L'Esprit entra en moi, il me releva pour que j'entende la parole ». Parfois, nous avons besoin d'abord d'être relevés, d'être tenus debout pour entendre ce que l'Esprit nous dit. Ce n'est pas toujours quand on est au fond du trou que Dieu vient nous parler. Nous avons besoin de ce Dieu qui dit un grand oui et qui nous remet debout. Dès lors que par Dieu, nous tenons debout devant lui, quel besoin de point d'appui extérieur. Dieu est ce oui qui croit en nous. Il a placé sa confiance dans sa créature. Il a prononcé sur elle un oui sans restriction. Je m'en rends compte, un oui en forme de pari. La liberté nous est accordée parce que Dieu sait que nous pouvons en faire un bon usage en dépit des apparences et en dépit du péché. Je conclus en essayant de nous projeter un peu. Lorsque nous serons, vous et moi, un jour, de l'autre côté des choses, de l'autre côté du rideau, nous rencontrerons Dieu, vous et moi. Nous rencontrerons Dieu. Que croyez-vous qu'il nous demandera? Que croyez-vous qu'il nous demandera? Pourquoi n'as-tu pas été comme les apôtres, comme tel ou tel grand pasteur, évangéliste, professeur. Pourquoi n'as-tu pas été un saint, une sainte? Pourquoi n'as-tu pas été un héros, une héroïne, un leader, un influenceur, une influenceuse? Je ne crois pas un instant que Dieu nous demandera cela. Pas un instant. Je crois qu'il nous demandera plutôt, as-tu été toi-même, en âme et conscience? As-tu été au bout de toi-même, être humain, racheté par ma grâce, libéré par le Christ, tenu debout par l'Esprit? As-tu été toi-même? Car c'est en vue de toi-même, c'est pour que tu puisses être toi que je t'ai donné la liberté. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Amen.
La liberté. Merci à Philippe. C'est vrai que ça nous remet en question et il dit des choses très fortes qu'il nous a dit, qu'il nous a interpellé. Et c'est vrai que j'ai envie avec vous de passer un moment en prière, que celle soit silencieuse ou émise à haute voix pour que nous puissions la partager. Et c'est vrai que cette liberté, nos responsabilités, cet équilibre avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est quelque chose qui nous rejoint dans notre plus profond de nous-mêmes. Alors je crois que prenons ce temps, soit vraiment intérieurement, de pouvoir y réfléchir, de pouvoir déposer à Dieu comment nous avons ressenti ces paroles et qu'il nous inspire aussi dans notre démarche. Dans cette forme de pari qui est d'être nous-mêmes. Alors je vous propose que nous prions. Sentez-vous vraiment libre de le faire à haute voix, si vous voulez, on pourra partager avec vous cette prière, ou bien intérieurement, c'est égal, mais que nous puissions rejoindre notre Père et la communauté par notre prière. Oui, Seigneur Jésus, je suis moi-même bien conscient que ce n'est pas par des codes religieux que je te rejoins, mais par ton Esprit Saint, par l'amour que tu as mis dans mon cœur et dans celui que j'ai à partager et dans celui que j'ai à être moi-même. Alors Seigneur Jésus, merci pour cette liberté. Et c'est vrai, Seigneur, quand je me suis converti, c'était aussi un élément important. Alors Seigneur Jésus, merci pour cet Esprit Saint qui nous guide sur ce chemin parfois angoissant. Mais Seigneur, ce chemin qui fait des hommes tes enfants, qui nous fait des fils et filles de rois. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce rappel de ce matin. Et Seigneur, que nous puissions avoir nos cœurs ouverts à toi, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, à ton Esprit Saint qui veut nous guider. Et Seigneur, que nous soyons ouverts, que nous soyons nous-mêmes. Amen.
Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Oui, Père, tu nous as appelés à la liberté pour être aimés et pour aimer. Alors, Seigneur Jésus, que ce seul commandement, que ces deux commandements principaux qui résument tous ces codes, merci parce que tu les as acquis à la croix. Et Seigneur, nous ne voulons pas que nos codes religieux, Seigneur, suppriment l'effet de la croix, l'effet de la grâce qui nous est faite gratuitement et Seigneur, tels que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et nos manquements. Mais Seigneur, cette croix nous a relevés, Seigneur. Cette croix nous a donné un avenir. Et Seigneur, cette croix nous a donné aussi une rencontre avec toi et un avenir libre, libre de t'aimer et libre d'aimer. Libre d'aimer. Alors Seigneur Jésus, merci pour cette croix. Merci pour cette résurrection, Seigneur Jésus. Et Seigneur, qu'elle puisse nous guider toute la semaine en sachant que Seigneur, oui, nous sommes libres. Nous sommes libres d'aimer, libres d'être aimés et libres d'être nous-mêmes. Amen. Je vais vous proposer, pour un peu clore ce petit moment de prière, de dire le Notre Père. Est-ce qu'on ose se lever ? Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors Xavier va nous interpréter encore un chant et je vous propose de le méditer, de le prendre aussi en prière.
L'ombre est là. la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire prier. Le Dieu de victoire a pris ma croix et l'a terrassée. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Essayez de le chanter dans votre cœur, ce passage du refrain, le Dieu de victoire avec moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.
Je propose maintenant un temps d'annonce. Alors, Philippe ou Joanne, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Alors, j'aimerais commencer pour les annonces déjà à remercier tous ceux qui mettent en place le culte, parce que c'est vrai que c'est pas mal de contraintes. Et il y a un groupe redémarrage qui a mis en place tout le protocole pour recommencer ces cultes. Et c'est un très gros travail qui prend beaucoup de temps. J'aimerais les remercier parce que non seulement ils l'ont fait, mais ils continuent à le faire parce que les règles évoluent de semaine en semaine. Et donc, c'est un travail qui demande beaucoup de sagesse et de prudence. Et j'aimerais vraiment les remercier. J'aimerais remercier ceux qui viennent aussi à l'accueil pour mettre en place tout ce qu'il faut, désinfecter aussi pour la suite. Et encourager justement des personnes qui désirent s'inscrire. Vous voyez, le travail n'est pas si conséquent que ça, mais il y a besoin de le faire. Voilà. Donc pour les cultes, on continue les cultes en présentiel sur inscription. Donc vous avez reçu un email, vous recevez chaque semaine un email pour s'inscrire pour le culte du dimanche, et puis aussi pour le soir, ce qui est intitulé RDT. C'est important de vous inscrire, soit par email, soit par téléphone. L'équipe pastorale est toujours à votre disposition. Ensuite, le caté reprend pour une dernière séance de cette année, avant les vacances, qui est le vendredi soir 19 juin à 18h45, ou dès 18h45. Le culte de la semaine prochaine sera donné par Claude Becher, son dernier culte avant la fin de son ministère ici. Et nous te remercions de pouvoir donner encore ce dernier culte avant ton départ à la retraite. Ensuite, on rappelle aussi le retour des votes pour le colloque du 16 juin, qui est bien sûr un colloque virtuel à distance. Donc il y a possibilité soit d'envoyer, soit de déposer dans la boîte aux lettres vos votes jusqu'au 16 juin à 18h. Et puis jeudi a été inauguré, ou plutôt pas inauguré, célébré le mariage de Aurélie et David. Et donc on les félicite.
Alors peut-être juste avant que nous passions à la bénédiction, quelques petites consignes encore. Donc vous trouverez, je vous encourage au niveau de la sortie, enfin je vous encourage pas, je vous demande de passer par la sortie de secours au fond de la salle, de pas trop attendre parce qu'après une équipe va désinfecter les chaises pour le culte justement RDT qui aura lieu à 18h ce soir. Il y a également une petite boîte pour du cash, pour votre collecte, pour votre don, si vous y pensez à la sortie. Et puis juste encore dire que si durant la semaine, vous développiez des symptômes du Covid-19 d'ici mercredi, merci de nous informer par l'intermédiaire des pasteurs ou du conseil. On ne sait jamais que s'il y a la deuxième vague, c'est bien d'avertir. Voilà, nous aurons un dernier chant avec Xavier et ensuite un dernier chant de bénédiction. Et ensuite Philippe clôturera ce culte par la bénédiction.
Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Ton Dieu béni et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Amen.
Pour célébrer un culte, nos amis français pourront également nous rejoindre avec l'ouverture des frontières dès demain. Nous serons probablement un peu plus nombreux. Merci donc de veiller à votre inscription préalable. Je vous invite à vous lever. Il est pour toi. Dieu est pour nous. Le Seigneur Jésus s'adresse en Jean 8 à une belle brochette de fins connaisseurs de la loi. Et il leur dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous libère, vous êtes vraiment libre. Alors j'invoque la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous et que nous puissions aller dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Bon dimanche, belle semaine.